Nostalgie, entre les notes.
Julie Pietri.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Entre les notes. Donc aujourd'hui, nous sommes entre les notes de Julie Pietri. Et donc, pour les besoins de ce podcast, j'ai eu le plaisir de me plonger dans votre discographie. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que vos albums sont loin d'être un enchaînement de titres incohérents ou de singles. Vos albums sont des unités artistiques. Et par exemple, je prends l'exemple de La Légende des Madones en 1989, votre quatrième album. J'ai écouté Salambo, je me suis dit, mais c'est une ouverture en fait. C'est une ouverture de quelque chose. La transition avec Feeling en noir, on l'entend même pas, elle est parfaite. Et ensuite, il y a Mo. Ce final qui est magnifique, où votre voix part dans quelque chose qui se rapproche presque de l'opéra. Quand vous avez fait ça, est-ce que c'était en pensant au concert, en pensant à une ouverture de concert, un final de concert, ou c'était avec la volonté de vraiment créer un album comme une unité artistique?
Alors, au départ, La Légende des Madones, je l'ai créé comme une unité artistique qui ressemblerait à une musique de film. Et d'ailleurs, je fais beaucoup référence à Fellini, Roma, etc. Il y a plein de titres où je parle de cinéma. Je parle beaucoup de femmes, mais je parle aussi de cinéma. Je parle aussi de monde qui s'écroule. Moi, j'aime beaucoup que vous me parliez de cet album parce qu'il est, même s'il est quasiment album d'or, je crois, à quelques milliers près, personne ne m'en parle jamais. C'est toujours Ève, lève-toi. Donc, merci de me parler de La Légende des Madones, qui est mon album de cette époque-là, puisque c'est la décennie 79-90, le plus abouti. Et surtout, moi, ça me permettait de montrer mes évolutions artistiques et les gens avec lesquels je travaillais, qui étaient tous très différents. Et là-dedans, j'avais vraiment la crème, comme les Darans, etc., la crème Antoine et Sertier, etc., du rock français. Et en effet, ce concept de tout lier, comme si c'était une musique, un seul morceau à écouter en une seule fois. Et ouais, c'est comme un opéra, quelque part, ça s'arrête jamais, un opéra. J'ai lancé Salambo, encore une fois, très féministe. Et je sais que j'ai acquis un nouveau public avec cet album. Et ils sont venus, ils ont acheté cet album avec comme référence Salambo. C'est là qu'ils ont commencé à me suivre. Et j'ai même mon coach vocal qui me dit qu'il a commencé à acheter mes albums avec La Légende des Madones. C'est quand même incroyable de la part de mon propre coach vocal. Donc c'est un vrai compliment pour moi.
Lors de l'écriture des textes, il vous arrive de co-écrire des textes. Et par exemple, le morceau Étrangère m'a paru en partie autobiographique. Est-ce que c'est difficile de collaborer avec des auteurs lorsqu'en plus on a des chansons qui parlent de notre propre vécu?
Collaborer, non, parce que c'est un auteur avec lequel je collabore depuis des années, ce qui est collaboré, puisque encore une fois il n'est plus là, c'était Jean-Michel Beria. Il me connaissait par cœur, depuis justement l'époque producteur de Sheila. Il savait d'ailleurs que je voulais m'en sortir. Il savait aussi que j'avais des moments où je me sentais étrangère à ma vie, ou étrangère à ce métier, ou à ce... Oui, je parle d'ailleurs de ce métier, de tous ces gens qui s'en vont quand on a fini un concert et qui vous laissent seul. Voilà, et... je peux enfin en parler aujourd'hui. Moi, je me sentais étrangère dans ce métier et totalement incomprise. C'est-à-dire qu'on disait « Ah ouais, elle a fait un morceau, Ève, lève-toi, vas-y, on s'en fout. » Et moi, je me disais « Waouh, dans le nombre, dans tous ces albums que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, comment se fait-il qu'on passe sous silence tant de choses? Pourquoi on n'écoute pas, encore une fois, pourquoi on ne me ressort qu'un seul morceau ?» Alors d'accord, c'est un blockbuster parce que sur un seul morceau, vous en vendez quasiment 1,5 million sur le coup. C'est beaucoup, mais qu'on passe sous silence un album d'or comme La Légende des Madones, bah, ça me faisait sentir, oui, étrangère. Et je me suis toujours sentie, donc de avant jusqu'à maintenant, étrangère. Et encore une fois, avoir la parole aujourd'hui sur tout ça, bah, c'est du bonus pour moi. Je me dis que c'est chouette la maturité de pouvoir parler.
Et est-ce que la scène, c'est justement un moyen de mettre en avant des morceaux que vous pensez être un peu passés inaperçus dans les charts, et surtout de remettre, de vous sentir au centre de votre métier, c'est-à-dire que les chiffres, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu impersonnel, ça reste des chiffres. Est-ce qu'il y a des chansons que vous sentez qui ont leur propre vie sur scène, qui ont peut-être même parfois plus de succès que celles qui ont eu du succès dans les charts?
Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, parce que j'ai fait donc un album avant celui qui va paraître, qui s'appelle Origami, que je n'ai pas pu défendre, puisque les gens le savent, je n'en fais pas du tout un mystère et je m'en fous. J'ai eu un cancer, j'ai été opérée, j'ai eu des traitements, donc j'ai pas pu défendre Origami comme il se doit. Et j'ai surtout arrêté de faire de la scène à ce moment-là, comme de la promotion. Et il y a deux morceaux, Les Hommes qui pleurent, thème cher à mon cœur, et Les Signes indiens, qui marchent très très bien sur chaque scène que je fais. Et pourtant, on les a pas tant entendus que ça, puisque je n'en ai pas, j'ai pas pu les défendre, j'ai pas pu faire de la promotion. Et ce sont deux morceaux où tout le monde tape dans les mains et où tout le monde participe, alors que bah, ça n'a pas pu rentrer dans les charts, ni quoi que ce soit, hein, dans les classements. Donc je suis assez fière de ça, que finalement je puisse les faire passer sur scène avec toute mon énergie, voilà.
Je voulais vous parler d'interprétation vocale. Donc vous en parliez tout à l'heure, vous êtes une chanteuse qu'on pourrait qualifier de chanteuse à voix. Est-ce que lorsqu'on a de telles possibilités techniques, il faut se restreindre parfois pour une interprétation plus humaine? On peut parfois entendre des chanteuses qui abusent des faits, en fait. C'est difficile de se contenir?
Alors oui, parce que quand on a une voix qui peut partir dans tous les sens, on peut en faire trop. Après, ça dépend des goûts, hein. Moi, je... Mais il y a plein de moments où moi, je me suis vachement restreinte, où je faisais juste na 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 na, juste comme ça, alors que je peux chanter en contrute. Mais je suis pas là pour faire de la démo. Je suis pas là pour faire de la démonstration vocale. Donc, si les gens viennent sur scène, ils vont s'apercevoir que sur certains morceaux, ça dépote. Je crois qu'il y a aussi de l'émotion, il y a aussi voilà, il y a plein de choses à faire passer au travers d'une voix. Je crois que la voix, c'est comme endosser le rôle d'un personnage, être un personnage au cinéma. C'est, elle passe par toutes les couleurs. Moi, j'ai envie de donner beaucoup de couleurs, aussi bien au début quand je chantais un morceau comme Maria Magdalena, j'avais une toute petite voix comme ça, na 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 na. Ok. Mais ensuite, quand on m'entend dans Salambo, même dans Eve, hein, les gens croient qu'ils peuvent chanter Eve, c'est juste inchantable. Et en fait, les gens, ils chantent tous faux. C'est un truc infaisable. Mais en tout cas, c'est adorable d'essayer. Hein, et puis bon, ça me donne des preuves d'amour tellement géniales. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas me servir de ma voix comme d'un rempart ou comme d'une arme. Non, il y a des, je l'utilise. Dans certains morceaux où ça rentre vraiment dedans, si on vient me voir sur scène, on va se dire « Ah ouais, d'accord, ok, je ne m'étais pas aperçu que c'était ça ». Ça m'arrive souvent. Quand j'interprète Salambo, quand j'interprète Les Hommes qui pleurent, quand j'interprète même un morceau comme Eve ou comme où il y a des impros très très fortes, mais on ne s'imagine pas qu'elles soient à cette force-là, ou Nouvelle Vie juste après, qui est devenue sur scène un vrai rock, etc. On se dit « Ah d'accord, là je peux sortir ». Je peux sortir de ma voix, mais c'est pas une nécessité. Je trouve que donner toutes les palettes qu'on a et dans l'émotion, c'est plus mon propos.
Ok, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de contextes dans lesquels on adore vous entendre, mais les karaokés, parfois, peut-être un petit peu moins, concernant Eve, lève-toi. Et alors, j'ai remarqué qu'il y avait, par exemple, pour Eve, lève-toi ou Étrangère, des versions différentes suivant les albums. Moi, quand j'ai entendu la première fois la version album d'Eve Lève-toi, je l'ai trouvée géniale. J'ai trouvé qu'elle était encore plus complexe que la version que je connaissais. Et vous avez tendance à faire des titres, comme on en a parlé avant, sans vous mettre de barrière, un peu plus long. Est-ce que le fait de s'adapter au format radio, ça peut être une frustration parfois?
Oui, parce que on est obligé de faire des cuts, des fois, dans des trucs qu'on aimerait beaucoup plus longs et qu'on fait beaucoup plus longs sur scène. Oui, c'est vrai. Et pas que pour Eve, toutes les chansons. Il y a beaucoup de chansons où vous avez envie de continuer parce que le public chante. Donc vous avez envie. Donc à la limite, même les musiciens peuvent s'arrêter derrière vous et vous faites reprendre le public. Et ça c'est juste génial, quoi. C'est pas le propos du live. Le live, vous donnez ce que vous avez envie de donner. Si vous avez envie de continuer, c'est bien. Après, sur un album, c'est pas très grave que ce soit cut ou que ce soit chanté. Non, c'est pas très grave. Après tout, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est le live.
D'accord, oui, en plus parce que vous avez justement plus de liberté. Et en parlant de live, est-ce que j'ai vu un reportage autour de la tournée Star 80 où vous étiez un petit peu effaré du fait que sur un de vos titres, on vous donne pas de cœur? Parce que vous disiez, et c'était une vraie réflexion de mise en scène, en fait, vous disiez, moi, il faut qu'il y ait des cœurs pour que je sache quel comportement avoir, parce que ça va avec le morceau. Comment vous envisagez du coup la mise en scène de vos spectacles? Est-ce que c'est un show millimétré ou est-ce que vous vous laissez de la liberté?
Non, ça ne se passait que sur Star 80, c'est-à-dire que le morceau Maria Magdalena commençant par des chœurs, c'était quand même dommage qu'il n'y en ait pas. Donc, j'étais là, je me disais, ça m'avait mis en rogne, parce que je disais, attends, moi je commence pratiquement pas, j'arrive sur des chœurs, donc pourquoi il n'y a pas de chœurs?
Non,
c'était
pas
juste
un caprice,
une question de logique, que j'essayais de défendre cette logique béaba, mais bon, ça c'est... Ça, c'était sur Star 80, où par ailleurs, c'était très beau, etc. Mais pour les spectacles que moi, je fais toute seule. Alors, il y a des choses. Moi, je travaille sur la setlist, évidemment. Je fais des ordres. D'autant plus qu'à l'Alhambra, ça fonctionne comme ça. Il y a entr'acte. Donc, c'est pas moi qui le désire. Hein, c'est comme ça. Il y a plein de choses qui sont prévues, mais c'est pas millimétré. Parce que je laisse toujours une petite part au hasard. Et au public. Parce qu'il faut savoir leur parler. Je vais pas dire la même phrase tous les soirs. Bon, là, c'est qu'un soir, parce que je reprends pied avec le public parisien. C'est extraordinaire. Voilà. Mais pourquoi se couper d'une réflexion avec les gens? S'il y a quelqu'un qui vous dit je t'aime, par exemple, hein, et qui vous coupe la chic sur un truc, sur la suite du show, bah, moi, j'ai envie de lui répondre, bah, moi aussi, c'est gentil, t'es adorable. Je te fais des bisous, bon, tu chantes avec moi maintenant. Si je réponds pas normalement, ça fait vachement prep. Alors moi, c'est pas non plus une scène où il y a 50 danseurs, 60 effets spéciaux. Ça reste un spectacle les yeux dans les yeux quelque part. Ça reste vachement intime, même si ça va être un rentre-dedans avec les artistes, oui, les musiciens qui sont des artistes pour moi, les choristes, etc. Donc tout ce qu'il va y avoir. Ça va être checké, mais moi, mon interaction, elle va rester une interaction. Je vais pas juste dire ça va.
Ok, oui, je vois.
Voilà, c'est pas mon truc.
Mais c'était pas un texte. Et justement, on a parlé des musiciens. Est-ce que vous avez de la théorie musicale? Et sinon, comment, quelles sont vos techniques pour garder la main mise sur le résultat final, notamment musicalement?
Et ben parce que c'est moi qui choisis mes musiciens, donc. D'abord, on déjeune, on voit tout l'ensemble, et ensuite, avec le chef d'orchestre, en l'occurrence Philippe Chaïeb, grand bassiste devant l'éternel, et voilà, avec toute une équipe de très bons musiciens, et ils savent où je veux aller, quoi. Donc, c'est moi qui leur donne à peu près les directions. Après, je prends aussi les conseils. Ça veut dire que si Philippe Chaïeb me dit... ah oui, mais moi je le vois plus en, je vois plus un truc en acoustique sur ce morceau précisément. Moi j'ai déjà prévu des pianos voix par exemple. Ah, je vous en lâche des, j'ai lâche des infos. Mais voilà, mais lui peut me dire non, on va pas le rendre totalement électro. Je trouve que si tu mélanges électro et acoustique, ça va le faire. Et donc j'écoute. Donc puis il y a des répétitions. Donc, mais moi, j'ai un fort goût musical où j'ai déjà prévu à l'avance des choses.
Donc, on peut dire que la sagesse, on va dire, vient de faire trouver le juste milieu entre son idée de base et ce que peuvent apporter les autres. Et c'est une balance, en fait, à garder. C'est bien ça?
Moi, je suis prête à écouter les conseils. Parce que musicalement, plus on est de fou, plus ça marche. Et mieux c'est abouti. Non, c'est un travail d'équipe pour moi. C'est un travail d'équipe. Et même si j'ai une vision globale... je sais à peu près où je vais, comment, quelle intervention, pourquoi. Après, avec les musiciens, on peaufine. Et peut-être qu'une direction qui était prévue au départ, on va vraiment la modifier.
Mais c'est ça qui doit être excitant aussi, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup, Julie Tétry.
Merci à vous, merci beaucoup.
Nostalgie, entre les notes.